en fait une question pour Marie, mais on en a déjà discuté un peu ce midi. C'était sur le rapport entre son métier d'architecture et le métier de. En quelle mesure tout ça évolue, je pense que c'est une question très classique. J'avais une réaction sur la présentation de Catherine, qui est là aussi en fait sur la manière dont le secteur, le domaine du bâtiment, que moi je connais finalement pas très bien, mais c'est un petit peu chaque jour de comprendre un peu mieux comment ça marche. Qu'est-ce que ça nous apprend, ce que tu as raconté sur le domaine du bâtiment? Ce qui m'a frappé, c'est que tu as une entrée de la question de l'acceptabilité, qui est une entrée très, très sociologie des techniques, qui est une entrée familière pour toi et moi, et que du coup, l'impression que j'ai eue, c'est que ça amène à poser des questions que peut-être les professionnels du bâtiment ou de l'architecture ne se posent pas ou ne se posent pas forcément comme nous. En particulier quand tu dis, finalement, le grand problème de toutes ces histoires-là, c'est comment devenir utilisateur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une position d'un acteur, qu'il soit un utilisateur. Et donc tu pars de l'idée que la posture d'utilisateur n'a rien d'évident, et qu'il faut qu'elle soit construite par une série d'intermédiations. Donc tu as évoqué des intermédiations socio-techniques, techniques, et puis le régisseur là, qui remplit le vide, le grand vide, on va dire, de l'absence de médiation qui est occupée par ton régisseur. Du coup, je me demandais comment est-ce que ça s'analyse, ça, cette absence de posture de l'utilisateur, avec plusieurs pistes. Soit les bâtiments sont pensés pour être automatiques, donc pensés automatiques, il n'y a pas d'utilisateur. Soit, alors là, c'est l'hypothèse un peu de l'architecte, du responsable de bâtiment, d'ingénieur conception un peu borné, on va dire, qu'on évoque de temps en temps, c'est-à-dire en fait, il ne fait plus pour éliminer les anti-programmes. Soit la défaillance des prix, ça, c'est quelque chose que tu as évoqué, c'est-à-dire finalement, ça se qualifie pas forcément bien. Habiter un bâtiment, ça renvoie à des tas de choses compliquées comme se déplacer, être à bonne température, etc. Et donc, on n'a pas les prises qui nous permettent de qualifier tout ça. Et je me disais qu'au-delà de ces hypothèses-là, il y en a une autre encore qui est vraiment plus sur le secteur. C'est-à-dire, est-ce que ce que je raconte peut être expliqué dans des termes du genre, dans le domaine du bâtiment et de l'architecture, justement, on n'a pas, à la différence d'autres domaines comme la consommation, l'automobile, les nouvelles technologies, où la posture de l'utilisateur est finalement très très installée par des tas de dispositifs très très différents, on serait dans le domaine du bâtiment, dans une histoire en fait de la discipline, du secteur, qui n'a pas installé cette posture de manière suffisamment assise. Donc est-ce que c'est une hypothèse qui a un sens? Alors, je ne sais pas si la question est pour toi aussi, c'est pour d'autres spécialistes ici qui connaissent bien le secteur. Est-ce que cette hypothèse-là a un sens? Et du coup, ça reboucle sur la question d'acceptabilité sociale, parce que ça donnait l'impression que pour qu'on puisse parler d'acceptabilité sociale et faire le lien véritablement avec ce qui se passe, il faut qu'on ait un utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un citoyen qui a des idées sur la planète, les échanges, tout ça, mais tant que cet acteur-là n'est pas à la fois lui-même impliqué en tant qu'utilisateur dans des dispositifs qui lui permettent de faire des allers-retours entre ce qu'il fait et ce qu'il pense, sa conviction politique, on ne peut pas parler d'acceptabilité sociale. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que parler d'acceptabilité, on va dire qu'il y aura une sorte de préalable qui serait pour qu'on puisse parler de façon efficace d'acceptabilité, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord des dispositifs qui construisent l'utilisateur. C'est plutôt des réactions, peut-être que des questions. Je ne sais pas si.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle ou vous voulez les répondre?
Moi j'avais deux questions, pardon. Sur la première présentation, je ne suis pas complètement satisfait sur l'idée que on a des acteurs qui font l'articulation. Vous parliez notamment des bureaux d'études, hein, donc qui feraient l'articulation. Je crois que dans le travail de Calon, il y a effectivement cette question de l'articulation. Mais la notion de traduction ne se résume pas à ça, évidemment, et ce qui me semble important dans cette notion, c'est l'idée que ces acteurs ne sont pas simplement en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou et à trouver des solutions, etc., mais présentent leurs propres intérêts dans la forme qui est prise par les autres, c'est-à-dire ils présentent leurs propres intérêts de bureau d'études comme des intérêts architecturaux, des intérêts de maîtrise d'ouvrage, etc. Et donc, du coup, là, ça introduit la question des rapports de force, ça introduit la question politique, finalement, des questions techniques, etc., qui ne sont pas simplement une espèce de position de cheville ouvrière ou de compromis, etc., mais vraiment de questions de rapports de force. Et pour sur la deuxième intervention de... là, la question rejoint un petit peu celle-là. C'est-à-dire que dans le tableau qui était montré, Moi, l'impression que j'avais, c'était que c'était moins un tableau qui présentait quatre situations différenciées, mais plutôt quatre états, hein, puisqu'il y avait fonctionnalisme de l'ingénieur, hein, qui propose son dispositif indépendamment de toute prise en compte de l'utilisateur. Ensuite, il y a le dualisme bâti comportement, politisation et confort négocié. On se rend compte en fait qu'on peut imaginer une continuité ou un processus qui passe par ces différentes étapes-là. Donc ça me semblait intéressant de le voir en tant que processus, moins qu'en termes d'état. Mais ça rejoint certainement l'idée qui était poursuivie. Et en revanche, cette question du confort négocié, là aussi, elle fait l'impasse sur les rapports de force. Et on voit bien que si ça prend si ça se politise à un moment donné, c'est bien qu'on est dans des rapports de force qui ne se résolvent pas par une négociation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a bien l'idée que entre celui qui construit le dispositif, celui qui le maîtrise et celui qui en est l'utilisateur, pour rester simple, les forces ne sont pas identiques. Et que donc, en gros, on a un matériel qui a été conçu par des entreprises, des bureaux d'études, etc. Et cet utilisateur, au mieux, il doit faire avec. Et de la part de ces bureaux d'études, de ces gestionnaires, de ces maîtres du dispositif, au mieux, c'est la démarche pédagogique. Hein, mais il n'y a jamais de co-construction, de co-élaboration, de processus technique qui prendrait à la base de leur conception, disons, cette démarche de co-construction, de co-élaboration, un peu comme qu'on peut le voir avec le logiciel libre ou d'autres choses de ce type-là, quoi. Où dès le départ, on considère que n'importe quel acteur peut transformer le dispositif lui-même.
Vous voulez déjà répondre, mais on continue.
J'avais une remarque un peu dans la continuité de ce que vous disiez.
Merci.
Non, c'était pour dire que donc moi j'ai aussi travaillé sur un bâtiment de la caserne de Beaune et que les résultats en fait que Catherine a présentés, ils sont vraiment extrêmement proches. Voilà, je sais que Vincent a aussi travaillé sur ce terrain. Et pourtant, c'est des bâtiments différents. Et l'une des idées de la caserne de Beaune, c'était justement d'avoir des architectes différents pour avoir différents bâtiments. Mais en fait, derrière, donc là, ça rejoint la présentation de Marie, c'est qu'il y a un même bureau d'études qui, en fait, a été le programmeur, qui a aidé l'aménageur pour l'ensemble des bâtiments. Et donc, au final, on se retrouve avec des problématiques qui sont à peu près les mêmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ce bureau d'études a eu connaissance du travail sociologique, qu'en l'occurrence, moi, j'ai fait, mais ça aurait très bien pu être celui de Vincent ou de Catherine. Qu'est-ce qui se passe quand il en a eu connaissance? Et bien, quand il en a eu connaissance, il est rentré en furie, hein, et il a dit que c'était faux. Que les radiateurs électriques dans les logements, c'était faux. Voilà. Que c'était peut-être un ou deux logements, mais que ça ne concernait pas beaucoup plus de logements. Et que, en fait, les consommations étaient atteintes et donc il n'y avait aucun problème. Donc il y a un déni de réalité aussi d'une certaine façon. Voilà. Et donc dernier point pour pas être trop long, c'est que ensuite de sa part il y a une accusation à mon égard, mais aussi une accusation à l'égard des sociologues qui travaillent aujourd'hui sur ces questions de performance énergétique, qui était de dire en fait en menant une démarche compréhensible, vous justifiez des pratiques qui ne sont pas celles auxquels les gens devraient se conformer, et donc finalement vous êtes contre-productif et vous cassez tous les efforts que nous, militants et professionnels, nous faisons depuis des années pour faire émerger de la durabilité dans les infrastructures et les bâtiments. Voilà, je voulais raconter cette expérience parce que elle me semble aussi faire le lien entre Gaëtan Brispierre, sociologue indépendant.
Oui, dans cette notion d'acceptabilité sociale, Je me demande s'il ne faudrait pas distinguer l'acceptabilité lorsqu'elle est due à des problèmes culturels ou l'inacceptabilité due à des problèmes culturels, des problèmes de mode de vie, etc., qu'elle sorte, évidemment, hein, par rapport à des dispositifs qu'on lui propose, qu'on lui impose, et le problème d'acceptabilité lié à des dysfonctionnements techniques de la machine, hein, puisque c'est un petit peu ça dont vous parlez, c'est la machine qui ne marche pas. Alors, à partir de là, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi introduire dans votre travail tout de même une dimension un peu plus critique, plutôt que, bon, une simple mise à plat, mais aussi critique, c'est-à-dire que le fait de prendre les habitants pour des cobayes, quoi. On expérimente sur eux des dispositifs techniques qui ne sont peut-être pas encore au point, etc., qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et à ce moment-là, voir si dans d'autres écoquartiers, c'est la même chose. Je veux dire, est-ce que c'est généralisable aux écoquartiers ou est-ce que c'est un cas particulier? Je sais qu'effectivement, à Grenoble, il y a eu un fameux cas d'écoquartier qui a complètement dysfonctionné, qui a fait péter tous les seuils de consommation d'énergie alors qu'il était destiné au départ à faire, je ne me rappelle plus du nom, si il y a eu un fameux papier là-dedans, bon bref. Donc il faudrait peut-être élargir ce problème à d'autres écoquartiers et ne pas rester simplement à un cas. Et bon, et puis introduire ce regard critique tout de même, hein, cet apport critique. Puis pour Marie, alors la question que je me pose, c'est par rapport à cette nouvelle doctrine d'urbanisme qui est l'écoquartier, enfin, à laquelle quartier se manifeste. Quelle est vraiment la portée du changement, hein, dans la culture de projet, par exemple, hein, dans le sens de Boutinet? Est-ce que vraiment on a affaire à un changement au niveau de l'éco-conception, l'éco-construction, etc., comme disait tout à l'heure Jérôme, hein? Est-ce qu'il y a vraiment une culture du projet qui évolue là-dedans, hein? Est-ce qu'elle est moins hiérarchique? Est-ce qu'elle est moins verticale? Est-ce qu'elle est d'une part? D'autre part, est-ce qu'il y a aussi des changements dans les structures de décision, dans les systèmes de décision, le portage politique? Est-ce que ça évolue, le pilotage technique? Vous n'avez pas parlé, par exemple, du rôle de l'État, vous n'avez pas parlé de... on ne sait pas où il est, le pilotage technique également. Bon, à part l'importance de ces bureaux d'études, mais est-ce que c'est vraiment eux qui organisent tout le pilotage technique de ces écoquartiers? Est-ce qu'il n'y a pas également aussi des établissements publics d'aménagement, enfin je ne sais pas qui sont derrière, bon. Et puis, troisième point, alors le quid de l'habitant, je veux dire, qu'est-ce que deviennent les habitants, qu'est-ce que deviennent, comment la concertation est prise en compte ici dans ces processus de décision, et dans, aussi bien en amont qu'en aval, qu'est-ce qui se passe? L'habitant ne semble pas pris en compte, enfin vous n'avez pas du tout parlé de l'habitant dans vos acteurs, hein, alors que justement un des objectifs des écoquartiers, c'est de faire aussi participer les habitants à aussi bien à la conception qu'à la gestion ensuite de cet espace urbain.